Le journal Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. 450 personnes migrantes qui craignent d'être expulsées d'un immense squat avant les JO. À Vitry, en région parisienne, nous reviendrons sur leur sort au début de ce journal.
Le projet de loi sur les soins palliatifs en France est finalisé. Il prévoit des moyens et du personnel, mais quid de la formation? Nous y reviendrons.
Et puis nous verrons que les diplomates britanniques jugent eux-mêmes leur diplomatie obsolète et arrogante. Après ce journal, Marguerite Caton, votre question du jour.
Nouvelle-Calédonie, qui a le droit de voter ?
Il est à la croisée de plusieurs crises, de l'hébergement d'urgence et du logement, mais aussi la crise migratoire et sociale ou encore la préparation des Jeux Olympiques de Paris qui voit vider ou fermer plusieurs squats et camps occupés par des personnes migrantes. Le squat de Vitry, dans le Val-de-Marne, est situé dans les bureaux désaffectés d'une zone industrielle, loin des transports et du centre-ville. Et comme d'autres lieux récemment évacués à Paris et en Île-de-France, ces 450 habitants, pour la plupart des réfugiés soudanais, afghans et Éthiopiens craignent une expulsion prochaine à l'approche des JO. Ils sont pour la grande majorité en situation régulière puisque relevant du droit d'asile. Mais depuis la fin de la trêve hivernale, ils peuvent à tout moment être évacués. Le reportage sur place de Mathilde Cariou.
Imagine, on vient, on tombe sur toi, un jour comme ça, on te dit bon bah, t'es dans la rue.
Dans les couloirs humides du squat de Vitry, on ne parle que de ça, l'expulsion imminente des 450 habitants.
On est en avril, hein ?
Oui, je sais qu'on est en avril. Bah, la préfecture nous dit pas.
Gilla du collectif Le Revers de la Médaille tient une permanence d'accès aux droits.
C'est pas normal de devoir faire un déménagement sans connaître la date du déménagement. Maintenant, ils sont plus protégés par la trêve hivernale et on n'a toujours pas d'infos qui veut dire que ça peut être demain, ça peut être dans deux semaines, mais l'incertitude, c'est horrible de vivre avec ça.
Le stress de retourner à la rue, de perdre son emploi, Mohamed n'en dort plus, lui qui travaille comme agent d'entretien en région parisienne.
Il ne sait pas comment dire à mon patron aussi, il ne sait pas comment faire. Parce que moi, je pensais que nous qui travaillons, qui se lèvent à 3h, 4h pour se préparer, aller faire des jobs pour cotiser aux sécurité sociale chaque jour. J'ai pensé que quand même l'État français allait penser à nous.
Même inquiétude palpable chez Ami, sa fille, comme les 12 autres enfants du squat et scolarisés à l'école de Vitry.
Ça me met dehors, je vais faire comment? Moi, je suis grande, mais ma fille, c'est dehors, c'est pas je la vois.
En fait, j'ai trop la honte en fait, pour dire à mes copines qu'on va me mettre dehors.
Car s'ils sont expulsés, c'est direction un sas en région. Dispositif inventé, nous dit Gilla, pour la préparation des Jeux Olympiques, mais pas du tout adapté à la situation des réfugiés.
Le prétexte de « on va faire le diagnostic dans les sas en région », ça ne marche pas pour des gens qui ont un travail en Île-de-France. Ça ne marche pas pour des enfants qui sont scolarisés à Vitry. On demande que les choses soient faites dans des bonnes conditions et de manière sereine et sécure aussi. Parce que faire venir 1000 policiers pour évacuer un bâtiment, c'est une situation extrêmement traumatisante et ce n'est pas nécessaire. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent ici, qui savent faire le travail de réorientation, de diagnostic social.
Les habitants sont prêts à partir, mais à condition d'être pris en charge avec une solution de relogement.
Mathilde Cariou. Le texte est prêt, il sera présenté en Conseil des ministres demain, le projet de loi sur la fin de vie, qui comporte un volet décennal sur les soins palliatifs, secteur sur lequel la France est plutôt en retard au regard du reste des pays développés. Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, dévoilait ce week-end que 1,1 milliard d'euros seront débloqués pour développer ces soins palliatifs. Aujourd'hui, seul un patient sur deux y a accès et seulement un enfant sur trois. Parmi les mesures annoncées, donc, combler d'ici 2025 la vingtaine de départements dépourvus d'unités spécialisées en soins palliatifs, créer une centaine d'unités mobiles, reste une question épineuse, celle de la formation. Les précisions de Cécile de Kervas-Doué.
En 2020, un rapport commandé par le Sénat sur les soins palliatifs avait calculé que 30% des postes en soins palliatifs étaient déjà non pourvus. Et encore, c'était sans prendre en compte les départs à la retraite d'ici 2025. Et sans compter sur le vieillissement de la population qui, de l'aveu même du ministère, va faire augmenter les besoins en soins palliatifs de 250 000 patients supplémentaires par an jusqu'en 2034. Pour y répondre, le gouvernement annonce donc un vaste plan de formation à destination des médecins, avec 300 postes ouverts à l'université contre seulement 5 postes titulaires aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'il va falloir trouver les médecins formateurs. Et ça, ce n'est pas si facile, explique Laurent Calvel, chef du service soins palliatifs au CHU Strasbourg et président du collège des enseignants à l'université en soins palliatifs.
Ça fait peur parce que la connotation
soins palliatifs peut renvoyer directement à la finitude ou à la mort. L'autre aspect, c'est que c'est une discipline transversale. Elle traverse différentes spécialités et donc il est difficile de se dire qu'on peut former en 4 ans, en 5 ans, un exercice d'expertise en médecine palliative. Ce que l'on sait, c'est que on a aucune difficulté à avoir des jeunes étudiants en deuxième cycle dans les services de soins palliatifs parce que la réputation de ces services est souvent liée à la prise en soin de la personne dans sa globalité. Le relationnel avec le malade et ses proches, tout ceci attire, mais prend du temps.
D'où la nécessité d'avoir l'effectif nécessaire dans ces services de soins palliatifs. Équation difficile dans un contexte de pénurie budgétaire, mais le ministère précise, ce plan présenté en Conseil des ministres n'engagera pas les pouvoirs publics.
Il faudra attendre encore un peu pour avoir le résultat de la négociation sur le pacte de la vie au travail et la question notamment de l'emploi des seniors. Censé se terminer hier soir, un accord éventuel a été repoussé à aujourd'hui, mardi. Les points qui fâchent restent la formation dite reconversion et la création d'un CDI senior. Et puis ce matin à Bercy, le Haut Conseil aux finances locales est convoqué par le ministre de l'Économie. Bruno Le Maire veut discuter avec les principales associations d'élus locaux d'une éventuelle contribution des collectivités territoriales à la résorption de la dette publique. Collectivités qui estiment de leur côté avoir assez donné. Des baisers forcés et des gestes déplacés, 10 actrices dénoncent aujourd'hui l'un des réalisateurs français les plus en vogue dans les années 2000-2010, Philippe Lioret, à qui l'on doit entre autres « Je vais bien, ne t'en fais pas » ou « Welcome ». Il aurait profité de son statut de réalisateur pendant un casting en particulier, celui de « Toutes nos envies » en 2010, adaptation d'un roman d'Emmanuel Carrère. Une nouvelle affaire de ce qu'on peut appeler la deuxième vague du MeToo au cinéma après les révélations de Judith Godrèche. Ce sera l'objet du reportage de la rédaction à 7h25. Vous pourrez y entendre divers témoignages d'actrices sur ces comportements déplacés. Quant à la réaction de l'avocate de Philippe Lioret, la voici, maître Solange Doumic, parle, elle, de séduction et non d'agression.
Philippe Lioret a pu chercher à séduire maladroitement, peut-être trop vivement. Mais en tout cas, il s'est arrêté au moment où le refus lui a été manifesté de manière claire. Il a pu croire à quelque chose, s'aveugler lui-même dans quelque chose, se faire croire à quelque chose, mais il n'a jamais forcé un consentement qu'on lui refusait. Si une femme ne voulait pas, elle ne voulait pas. Alors évidemment, il y a toujours un rapport de pouvoir entre les réalisateurs et les comédiens, notamment au moment du casting. Mais ce n'est pas parce qu'il y a rapport de pouvoir qu'il y a abus de pouvoir.
Vous retrouverez donc à 7h25 l'enquête complète d'Élodie Guéguin et de Géraldine Allot.
Mars 2024, nouveau mois de record absolu de chaleur à la surface des océans.
Et mois de mars le plus chaud jamais enregistré dans le monde. Cela fait maintenant 10 mois consécutifs que les records de chaleur se suivent selon le nouveau relevé de l'Observatoire européen Copernicus. La température moyenne mondiale sur l'année écoulée dépasse de 1,58 degrés les niveaux pré-industriels. Et c'est justement aujourd'hui que la Cour européenne des droits de l'homme va se prononcer sur le recours de plusieurs particuliers contre la France, la Suisse ou le Portugal pour leur inaction climatique. À 10h30, la CEDH s'exprime dans trois affaires distinctes, dont l'une est à l'initiative de l'eurodéputé français Damien Carême, ancien maire de Grande-Synthe, qui attaque les carences de l'État français, estimant notamment qu'elles font peser sur la ville littorale de la mer du Nord un risque de submersion. On y reviendra largement dans le journal de 8h. Elle investit tous les champs, de la communication à la politique, en passant par la médecine ou les médias, mais l'intelligence artificielle est aussi l'objet de tentatives de régulation. C'est sur ce sujet que la CNIL, la Commission française de l'informatique et des libertés, a publié hier plusieurs recommandations après 2 mois de consultation publique sur l'IA et les données personnelles. Selon la CNIL, le développement de systèmes d'IA est compatible avec le respect des données personnelles à certaines conditions. Dans son rapport, elle s'adresse directement au concepteur de ces systèmes, Aurore Richard.
Elle conseille d'abord à ceux qui développent des systèmes d'intelligence artificielle de vérifier qu'ils ont bien le droit de réutiliser certaines données personnelles. Pour celles qui sont accessibles à tous, par exemple, il faut regarder si la source de la base de données est mentionnée et s'assurer surtout qu'il ne s'agit pas d'éléments volés. La CNIL incite également à minimiser les données personnelles collectées et utilisées, à se limiter donc à celles qui sont nécessaires et pertinentes. C'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit s'agit d'informations dites sensibles qui concernent la santé ou les opinions politiques. Et la commission précise que cela n'interdit pas d'entraîner un algorithme avec des volumes très importants de données. Autre recommandation, définir une durée de conservation et vérifier que les informations sont bien supprimées. Il est aussi conseillé d'évaluer les risques inhérents à un système d'IA, la possibilité que des données confidentielles soient rendues publiques par exemple, ou qu'elles soient utilisées à mauvais escient. Ceux qui développent ces systèmes doivent donc prendre des mesures de précaution, comme le cryptage de données ou en limitant les accès aux bases de données.
L'actualité internationale avec toujours au Proche-Orient cette menace israélienne d'une opération à Rafah où s'entassent plus d'un million de Palestiniens qui ont fui les bombardements à Gaza. Si l'armée israélienne a quitté la ville de Khan Younes où commencent à revenir certains habitants et si une trêve est toujours en négociation, hier soir Benjamin Netanyahou a confirmé pourtant, malgré les réticences de son allié américain, qu'une opération à Rafah était toujours à l'ordre du jour. Les précisions depuis Jérusalem d'Alice Froussard.
C'est une vidéo publiée sur son compte X, anciennement Twitter. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, ne laisse pas de place au doute. Il y aura une opération terrestre de l'armée israélienne sur Rafah.
Aujourd'hui, j'ai reçu un rapport détaillé sur les pourparlers du Caire. Nous travaillons sans relâche pour atteindre nos objectifs. En premier lieu, la libération de tous nos otages et la victoire complète sur le Hamas. Cette victoire nécessite l'entrée à Rafah et l'élimination des bataillons des terroristes. Cela arrivera, il y a une date.
Celui que l'on surnomme Bibi ne donne pas plus de précisions, mais plus d'1,5 million de déplacés gazaouis se serrent dans cette ville à la frontière avec l'Égypte. Une invasion militaire serait un massacre, une catastrophe sans précédent, alerte depuis déjà plusieurs mois les ONG et la communauté internationale, y compris les meilleurs alliés d'Israël, les États-Unis, qui ont déjà précisé s'y opposer à maintes reprises s'il n'y avait pas de solution pour les civils. En tout cas, ce n'est pas la première fois que le Premier ministre israélien insiste. Déjà, il y a quelques semaines, Netanyahou avait précisé que l'armée israélienne était opérationnelle pour une invasion terrestre à Rafah.
Enfin, la diplomatie au Royaume-Uni est complètement has been, en anglais dans le texte. C'est ce qui ressort d'un rapport rédigé par des diplomates britanniques, pourtant très critiques sur leur administration. Selon les auteurs de ce texte, le Foreign Office, le ministère des Affaires étrangères, garde des habitudes obsolètes et ne comprend pas l'époque actuelle. C'est ce que nous explique notre correspondant à Londres, Richard Place.
Le Royaume-Uni devrait avoir davantage l'esprit d'équipe et faire preuve d'humilité et de respect. Ce sont des Britanniques qui l'écrivent, des experts des affaires internationales, anciens conseillers ministériels, directeurs de cabinet ou ambassadeurs. La claque est violente. On parle d'un sentiment de grandeur jugé anachronique, d'une Grande-Bretagne qui est désormais qualifiée de puissance moyenne en dehors de l'Europe. Il y a beaucoup à apprendre, écrivent-ils encore, de la Norvège, du Canada, du Japon, des pays selon eux comparables au Royaume-Uni actuel. C'est là que se situent les futurs partenariats fructueux. Le texte critique jusqu'au décor du ministère des Affaires étrangères et propose de moderniser les locaux, je cite, « peut-être avec moins d'images de l'époque